Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro de L'écume des pages, nous allons partir avec Raphaël Baptiste à la rencontre de la compagnie La Langue Écarlate autour de leur dernier spectacle Sister joué aux Subsistances. Et nous vous proposons ainsi une rencontre avec Hélène Maton et Eugène Stanitskaya. Bonne écoute à tous.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Bienvenue dans ce premier numéro de L'écume des pages. Je suis en compagnie de Hélène Maton de la compagnie La Langue Écarlate et de Eugène Savitskaya, donc qui ont tous deux contribué et créé le spectacle qui se joue aux Subsistances jusqu'à dimanche, à savoir Sisters. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors tout d'abord, j'aimerais que vous me rappeliez brièvement la matière de ce spectacle, sa raison d'être, et surtout qu'est-ce qui est né de votre collaboration, donc à savoir vous, Eugène Savitskaya, qui est écrivain. Et Anne Maton qui est metteuse en scène, hein. Je précise les rôles de chacun dans la création du spectacle.
Donc de rappeler qu'est-ce qu'on a fait, oui. Ça, d'accord. Donc j'ai proposé à Eugène il y a un peu plus d'un an d'écrire un texte sur la question spécifique autour de la question de la maladie mentale. Mais du point de vue des gens qui, pas du point de vue du malade, mais du point de vue des gens qui sont autour, et plus précisément de la fratrie. Voilà. Et donc c'est pour ça que le spectacle s'appelle Sister, qui n'est pas Sisters, il n'y en a qu'une, c'est nombreux, c'est une petite, mais c'est important. Voilà, et donc on a travaillé ensemble pendant cette année pour. On a les retours pour créer ce texte et voilà, il est mis en scène ici. Voilà.
Oui, donc Hélène m'a demandé, mais voilà, si ça m'intéressait, si ce sujet m'intéressait. Moi, j'avais besoin d'éléments pour écrire, donc j'ai d'abord commencé par lire un livre d'un schizophrène américain, Wolfson, le schizo et les langues. Et comment dire, moi j'ai toujours. C'était pas que je ne considère pas cette maladie comme grave, mais j'avais envie de le prendre plutôt. Et Hélène m'a cité un peu aussi dans ce sens-là, de façon un peu humoristique, parce que les schizophrènes ne sont pas tristes, toujours. Donc il y a quelque chose d'une joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la joie. Moi je considère la douleur aussi, mais. Vu de l'extérieur, parfois, on a besoin d'avoir une certaine distance par rapport à ce mal, quoi. Donc c'était assez difficile et délicat à mettre en place, donc à démarrer, parce que on ne savait pas du tout. Donc comment est-ce qu'il y avait du dialogue ou non. Donc c'était vraiment tout à fait. Nous sommes partis de rien. Enfin, nous ne voulions pas de structure préalable. Donc c'est venu. Donc j'avais proposé l'idée d'une balade simplement, quelque chose qui est raconté comme une histoire très ancienne, presque à la limite presque comme une chanson comme ça qui raconterait, comme une chanson de gestes, comme ça, raconter des faits comme ça, presque d'une autre époque.
Et justement pour rebondir sur votre idée de la balade. Donc qui de fait est un dispositif narratif énonciatif qui crée vraiment une distance assez grande. C'est peut-être ça qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est que du coup, ce qui au départ est une réalité clinique devient une forme de légende, comme vous l'avez dit vous-même. Mais justement, comment est-ce qu'on l'a construit, cette balade, autant dans l'écriture que sur le plateau? Comment est-ce que ça se traduit
sur comment ce que dit Eugène est, c'est très important, l'endroit, la forme qui est choisie. Donc c'est vrai que en proposant à Eugène, j'aime beaucoup son écriture, j'avais déjà travaillé sur plusieurs de ses textes, et ce qui m'intéressait aussi, c'était qu'on se donne, qu'il y ait de la liberté par rapport à la forme. Donc c'est pas parce que ça allait être un spectacle qu'il fallait adopter une forme d'écriture dramatique au sens traditionnel du terme, que je pensais qu'il fallait se donner plus de liberté, et notamment de le considérer beaucoup plus comme un poème que comme une pièce, si on prend des acceptions un peu schématiques, mais qui sont importantes. Donc c'est pour ça que cette forme de la balade a plus à trait avec une forme poétique, et c'est aussi une façon de dire que la seule réponse probablement qu'un artiste puisse faire, réponse, si tant est que ce soit une réponse, mais proposition qu'un artiste puisse faire face à la question de la maladie, c'est d'essayer de dégager de la poésie, puisque sinon, je veux dire, on n'est pas médecin, on n'est pas voilà, donc tout à fait humblement, tout ce qu'on peut faire, c'est ça, voilà. Et donc voilà, après ben, ça se construit par rapport à une proposition. La balade est une forme versifiée qui existe, ça veut pas dire que Eugène l'a complètement respectée, pas du tout, mais c'est de l'inspiration de ça. Et puis ensuite sur le plateau, ben, c'est trouver quelle forme théâtrale puisse correspondre à ça, et ça c'est ben, je sais pas, c'est assez compliqué pour nous, parce que ça veut dire que ça préexiste pas. Ça veut dire qu'on n'est pas dans des terrains qui sont des terrains où on va chercher à représenter ou à avoir une forme qui préexiste, mais on va chercher à trouver la forme qui correspond le mieux à la proposition que Eugène nous fait. Et donc ça reste quelque chose d'assez singulier qui est aussi de l'ordre de la transmission et de ce qu'on disait sur quelque chose d'ancien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de ça avec Eugène et avec l'équipe aussi, de dire c'est, pour moi c'est pas un événement, c'est non événementiel, au sens où la schizophrénie ou les maladies mentales sont traitées toujours de façon événementielle. Il se passe quelque chose, un accident, donc on parle de ça parce que c'est un accident. Or c'est une maladie très 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 ancienne, et ce qui est intéressant dans cette maladie, c'est de savoir dans quelle mesure elle a pris place dans la société ou pas. Mais c'est pas de dire ça existe et ils sont dangereux, ou c'est de dire tiens, c'est constitutif de la société et c'est très ancien, et ça a à voir avec un rapport au monde. Et donc ça nous intéressait que ça soit aussi qu'on ait cette sensation que c'est en distance, que c'est ancien, et c'est aussi une réponse à je pense cette sensation trop événementielle, c'est-à-dire qu'on en parle quand ça va pas, quand il y a des violences, quand... Or, c'est beaucoup plus de large et intéressant que ça comme question.
Oui, donc, le sujet, bien sûr, m'intéresse beaucoup. J'ai quelqu'un dans ma famille proche comme ça, était atteint de ce mal. Hein. Mais j'ai toujours regardé cette personne et apprécié la qualité de sa parole, tellement différente des paroles habituelles de la société. Donc, comme je l'ai toujours considéré, cette personne proche, comme une rebelle absolue. Donc, comme quelqu'un qui est entré depuis, on peut dire, la guerre 40-45, en résistance totale. Donc avec un repli sur soi, un repli, mais une vision du monde très très particulière. En prenant, disant des choses, bon, comme des fables, mais des fables qui, en fait, avaient quelque chose de un fond juste, enfin vrai, absolument vrai. Donc, mais voilà, donc me souvenant de cette personne que je considérais comme une héroïne absolue, quoi, la vraie. la grande héroïne, et résistant à tout, qui a fait en fait, qui refusait les médecins, hein. Elle a fait juste un petit séjour en hôpital psychiatrique, c'est pas parce que parce qu'il y a eu la personne qui vivait avec elle, a perdu les boules, a perdu comment est-ce qu'on dit ça,
a perdu les boules.
A eu peur, hein, donc pas sur conseil d'un médecin de famille, l'a fait interner. Et quand elle est revenue de cet internement, qui a duré quelques mois, c'était un été comme ça, le visage était, comment dire, content d'elle, enfin je sais pas, si je les ai eus, quoi, je suis sorti de là, et racontant avec humour comment elle s'arrangeait pour pouvoir prendre un bain tous les jours, par exemple. Donc, elle trouvait des manières de... Donc elle a résisté aux médecins. C'est un psychiatre de l'époque, c'était donc fin des années 50, début des années 60. Dans un hôpital psychiatrique en Flandre, le pire qui soit, donc tenu par des religieuses. Et donc elle est revenue comme une héroïne revient d'un combat. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours, vu sous cette. Elle m'a jamais fait peur, elle m'a jamais. Mais elle m'a impressionné par sa radicalité, on peut dire.
Et donc justement, pour rebondir sur cette idée de combat. On a donc un comédien qui est seul en scène, Hubertus Biermann, et qui donc est le narrateur de cette histoire, et finalement le narrateur aussi qui raconte l'histoire de ce frère et de cette sœur, de cette légende en un sens, donc qui exprime les intimités, les extrémités de notre intimité, et qui cherche, je trouve, à éclairer cette folie, mais non pas comme une part d'ombre, mais plutôt à la mettre en lumière, à montrer finalement justement à quel point elle peut être en marge de notre société individualiste, consumériste, l'idée de faire des projets, l'idée de faire l'idée de vivre en société, tout ce que ça implique. Moi, je me demandais si, qu'on soit comédien, écrivain ou metteur en scène, est-ce qu'on peut montrer cette marginalité avec lucidité, justement, sans tomber dans une... Alors, évidemment, pas dans une conception clinique, puisqu'on n'est pas médecin, mais est-ce qu'en tant qu'artiste, on peut montrer... on peut être lucide sur ce sujet ?
Ça veut dire quoi, lucide ?
C'est la question. Est-ce qu'on peut montrer est-ce qu'on peut faire en sorte que ce qu'on perçoit de cet univers de la maladie mentale puisse parler finalement à tout le monde, et du coup est-ce que du coup le travail de création, le travail de l'artiste, et notamment dans ce spectacle, est-ce que c'est un moyen pour faire que l'introspection se fasse en chacun de nous, finalement, que chaque spectateur puisse cheminer à travers cet univers et rentrer chacun à sa manière
Oui, je pense que si, alors si c'est ça la lucidité, parce que c'est pour ça que je vous demande, parce que la lucidité, moi je pense que c'est mon travail est inverse à un travail de lucidité. Là en tout cas, sur ce travail-là. Si la lucidité a à voir avec la raison, alors je pense que j'ai volontairement tenté d'aller de l'autre côté, puisque évidemment sur cette question de la maladie, c'est la raison qui nous est opposée. On nous oppose la raison. Donc le chemin qui se fait, c'est justement ce que Jeanne vient de dire, c'est-à-dire c'est le comment on va vers la déraison, et comment à un moment donné ce qu'on met en avant c'est la déraison, c'est de dire voilà, elle a autant de place que la raison, voilà. Et après sur le cheminement du spectateur, je pense que le rapport à la distance, justement, il est très important. un sujet comme celui-là, il y a déjà des prérequis très forts, c'est-à-dire que quand on prépare le projet, quand on est en contact, même dans, et surtout dans le monde professionnel, on peut dire, il y a une vision de la folie. Je dis la folie volontairement, parce qu'on était à la board, et ils disent les fous, ils aiment bien s'appeler eux-mêmes les fous. C'est pas des malades mentaux, c'est des fous, quoi. C'est une noblesse aussi de la folie. Et il y a de l'effroi. Ce terme provoque de l'effroi. Il provoque de l'effroi chez les spectateurs, il provoque de l'effroi chez les professionnels, il provoque de l'effroi. Parce que comme on ne connaît pas les frontières, forcément, on ne sait pas à quel moment on est atteint, où on va être atteint, où nos proches vont être atteints. Voilà. Et par rapport à ça, je pense que ce rapport à ce choix de la distance, qui est le choix du texte, qui est le choix de l'interprétation, de la mise en scène, c'est justement un choix qui permet au spectateur de se faire une place. Je pense que le choix inverse, qui aurait été un choix sur la question de l'incarnation de la folie, par exemple, c'est un choix qui, pour moi, est absolument impossible, dans la mesure où on sait, où on est tous les trois à le savoir, parce qu'on l'a côtoyé, que ses visages sont absolument multiples et spécifiques à chaque personne. Et que représenter, évidemment, il y a des gens tout de suite qui nous parlent d'Artaud quand on avait fait la Maison de la Poésie. Évidemment, Artaud arrive. Mais Artaud, c'est une figure de la folie. C'est une figure. Alors, c'est la figure mythologique, c'est une grande figure qui nous. Mais après, la vie intérieure de la folie, il n'y a pas de place pour le spectateur. Enfin, je pensais, moi, ça ne concerne que moi, qu'il n'y aurait pas eu de place. Je sais que vous, ça vous a dérangé, cette question de la distance, mais je pense que l'inverse vous aurait beaucoup plus dérangé, finalement. Parce que vous auriez été face à une représentation de la folie qui n'aurait eu rien à voir avec celle avec laquelle peut-être vous avez eu contact, ou peut-être vous vous figurez, ou peut-être qu'il y a une place dans votre esprit. Elle aurait forcément été différente. Et il y aurait eu encore moins de place, je pense, à une chose qui est de l'ordre de la fabrication intérieure du spectateur par rapport au spectacle. C'est le spectateur qui fabrique le spectacle, mais s'il lui est imposé, si une représentation lui est imposée de la folie, alors il n'a pas de place du tout. Mais bon, ça m'est très personnel, hein, je ne suis pas du tout...
Donc, en t'écoutant, je pensais à ce que m'a raconté une amie russe. En Russie, on dit que celui qui n'est pas paranoïaque est fou. Dans notre société, celui qui n'est pas paranoïaque est fou. Donc, ça veut dire, ça inverse aussi. Donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, certains types de folies sont une lucidité. C'est-à-dire qu'il y a tellement. Pour accepter la société telle qu'elle est structurée actuellement, hein, telle qu'elle va, c'est être vraiment dangereux. Donc, c'est cautionner cette façon où le monde va, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt, il faut plutôt être dans l'autre bord. Hein. Bon, je sais pas, j'ai pas d'autre. Je sais pas quoi dire d'autre par rapport à la lucidité.
Mais justement, pour aller encore plus avant dans cette question et pour venir, donc sans évidemment la dévoiler, mais pour venir à l'histoire des deux personnages dont le narrateur évoque l'histoire, il me semble quand même que ce narrateur qui nous raconte l'histoire de cette frère et de cette sœur souffre quand même, mais assez froidement, parce que justement le récit qu'il fait évoque l'existence du personnage du frère, dont la vie, je reprends là une formule d'Artaud, la vie est bornée de heures indescriptibles d'avortement. Mais au final, moi, la vraie question, et c'est pour rebondir sur cette idée, est-ce que c'est pas dangereux aussi de ne pas être fou dans cette société, au final, entre la frère et la sœur, qui a raison, qui est le plus, qui est le plus lucide, qui...
Ben pour moi, c'est pas une question, en fait. Justement, la raison n'est pas une question.
Oui, mais c'est la raison, c'est-à-dire qui se rapproche le plus de la vérité qui n'est pas forcément une raison. Mm-hmm. Pensez par exemple que Shakespeare pensait vraiment que les fous disaient la vérité. Donc moi je me pose vraiment la question, bah, quand on fait un spectacle au 21e siècle et justement qu'on montre, mais sans vraiment la montrer, justement avec beaucoup de distance, qu'on montre cette folie et qu'on montre à côté donc, de ce frère fou, entre guillemets, l'histoire d'une sœur qui, elle, évolue finalement comme tout le monde évolue. En creusant quelque part une sorte de fossé, mais sans non plus le creuser, parce que le frère et la sœur ne sont pas quand même définitivement séparés et définitivement enclins à ne pas se comprendre et à ne pas pouvoir communiquer. Mais quand même, je me demande entre le frère finalement qui ne réussit pas, qui avorte tout, et la sœur qui réussit, qui est le plus à même d'incarner justement la vérité dans notre monde moderne.
Je vais essayer de le répondre.
Donc, qui, mais je pense que le frère a raison dans beaucoup de points, on peut dire, hein. Mais simplement dans la position qu'il a, peut-être qu'il n'a pas la possibilité de jouir pleinement de sa liberté. Donc il y a quelque chose. Donc je pense que sa position est juste, hein, mais l'oblige à un repli, ce qui est dommage, parce que donc c'est pour ça que peut-être l'histoire du cachalot comme un accomplissement, il a besoin d'accomplir quelque chose, et donc l'idée de devenir énorme comme un cachalot et de partir, de quitter le monde humain, des humains, c'est une belle entreprise, même si elle n'est pas si elle est juste dans l'imaginaire, dans le... Et c'est quelque chose, je pense, que est nécessaire, enfin, mène à quelque chose de formidable, qui lui permet d'accepter, comment dire, une forme d'impuissance, hein, de pas pouvoir réaliser dans sa position un rêve. Ouais. Plus ou moins, hein, j'essaie de. C'est pas...
Mais pour rebondir sur ce que dit Eugène, je pense que c'est ce qui est important, et alors c'est qui a raison, moi j'aime pas trop savoir qui a raison justement, mais c'est la capacité de transformer la réalité. Voilà, ceux qui ont raison, c'est quand même, c'est toujours ceux qui veulent transformer la réalité, peu importe comment, peu importe quels outils sont les leurs, peu importe, mais c'est de pas se résigner face à la réalité, et la folie est une forme de transformation.
Utiliser le matériau qu'on a en notre possession pour le transformer, c'est-à-dire c'est juste un matériau de c'est la réalité, enfin la mille réalités du monde, c'est juste un matériau et il faut le considérer comme ça pour pouvoir en faire ce qu'on veut, le transformer, donc vivre plusieurs vies à partir d'une substance diverse comme qui est à disposition de tous. Donc, ne pas accepter tel que c'est, mais l'utiliser. Et alors, si on voit les choses comme ça, tout geste quotidien devient comme une œuvre d'art. Voilà, une production artistique. Tout, le moindre geste, le moindre pas dans la vie peut devenir, si on a cette idée de. Dans tout est matériaux à utiliser, à transformer. Donc je pense que le fou a ça, a cette possibilité-là. Il le vit pleinement, même, beaucoup plus que. C'est très difficile, comment dire, pour des gens, je dirais, normaux, entre guillemets, de ne pas être pris au piège de la réalité, de ne pas pouvoir s'en abstraire. Hein. le fou a la possibilité, il le fait, mais avec une forme d'impuissance aussi, il ne peut pas réaliser complètement, mais déjà s'il assimile la réalité et la transforme, c'est déjà formidable. Et de ne pas être, ne pas devoir travailler, c'est extraordinaire, dans notre société, où le travail, c'est quelque chose de capital, on peut dire, donc tout le monde court après, il y en a presque plus aussi. Mais ne pas se soustraire du monde du travail, je trouve ça formidable. C'est un peu l'idée, avant en Indonésie, les Indonésiens pensaient que les orang-outans étaient des êtres humains, mais qui avaient fui le travail en fait, qui ne voulaient surtout pas travailler, ils faisaient semblant de ne pas pouvoir parler pour échapper au boulot. Donc, c'est quelque chose de... Moi je trouve ça assez magnifique. Donc, avoir trouvé ce système donc de folie, je suis je peux pas non. C'est magnifique ça, c'est quand même un fameux pied de nez à la société du travail, hein. Donc ça c'est une révolte extraordinaire. On peut pas, je n'oserais pas dire à personne que moi pendant des années je n'ai pas travaillé, et j'ai vécu comme ça. Je refuse le truc. Donc c'est très très c'est formidable, c'est un acte de bravoure, hein.
Il y avait quelqu'un que je connaissais comme ça qui ça me fait penser à ça, qui était malade justement, qui m'avait dit mais moi je veux être gros et con, ouais. Et j'avais pensé à un moment donné à appeler le texte comme ça, bon c'était un peu trop provocateur, mais je trouvais qu'il y avait dans cette formule une façon aussi de dire voilà, on est dans une société où, comme dit Eugène, il y a des injonctions, par exemple il y a de l'injonction de la beauté, de la minceur, c'est une injonction très forte auquel plein de gens souscrivent et tentent d'adhérer à une apparence, et de même que con, c'est pas une aspiration, la connerie, on peut pas aspirer, normalement on n'aspire pas à devenir con. Et puis en plus, c'est impossible, il y a une impossibilité à devenir con. Voilà. Et je trouve que c'est magnifique, parce que c'est justement dire que c'est une aspiration inverse à celle qu'on nous impose. Et au final, ça devient très... C'est ce que dit Eugène, ça devient politique, c'est d'ordre politique. C'est pour ça que là... Il y a une réduction de la maladie mentale à quelque chose qui serait d'ordre pathologique, comme si c'était on voudrait nous faire croire que c'est comme le diabète ou que c'est... Or, c'est absolument tout l'inverse de ça. C'est une maladie qui, par essence, personne ne peut dire à quoi elle est due, personne ne sait comment la soigner. Et au final, on ne veut pas reconnaître que ses origines ont autant à voir avec les sciences humaines qu'avec les sciences exactes. Et c'est aussi de faire ce travail qu'on fait là, c'est aussi de dire il faut se réapproprier cette question. Elle n'appartient pas qu'à la médecine, elle n'appartient pas qu'aux neurosciences, parce qu'actuellement, quand même, tout la mobilisation dans la recherche par rapport à ces maladies-là, c'est les neurosciences. Donc c'est arriver à modéliser le cerveau, arriver à dire à un moment donné nous ne sommes que une série de tuyaux, donc le fonctionnement humain se résume à un fonctionnement de tuyauterie, voilà. Et un neurologue c'est comme un plombier en gros, mais j'exagère beaucoup, hein, mais je crois que c'est important, c'est que le jour où ils auront modélisé le cerveau, ils pourront dire que vous êtes déprimé. Non pas parce que vous êtes fait larguer par votre petite copine, parce que vous n'avez plus d'appart, mais tout simplement parce qu'il y a une déficience d'une production de sérotonine dans votre cerveau, eh ben, on aura passé un cap quand même important où, je ne sais pas quelle place il va continuer à exister, pour la poésie notamment. Et ça, c'est grave.
Mais du coup, justement, pour rebondir et plutôt parler de la dramaturgie, mais qui est finalement la poésie complète, puisqu'elle mêle les corps finalement à la parole. Est-ce que ce spectacle est aussi là pour dépasser cette impuissance face à la maladie ?
Bien sûr, bien sûr.
Oui, oui. Ah, oui. C'est-à-dire que c'est pour la mettre sur un piédestal, hein, aussi, hein, quelque chose. L'élever. Mm. L'élever, enfin la chanter. Puis, comme on chante l'ode à cette, à la folie, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça l'utilité d'une œuvre d'art. Hein. C'est chanter des choses parfois qui ne sont jamais, admirées ou donc élevées. Retourner en qualité extraordinaire, en vertu formidable, quelque chose qui est toujours méprisé ou craint. Voilà. Oui, c'est la motivation première d'une œuvre d'art.
C'est des dégagements d'espace et de temps. Oui. Ce qu'on fait, c'est ça. Je pense qu'on passe, nous, notre temps à essayer de pousser le temps, de créer créer de l'espace, quoi. Enfin, dans le théâtre, là, on pousse le temps, et puis on crée un moment où y a des gens qui se retrouvent et qui écoutent cette histoire, et puis on en parle ici, et puis voilà. Donc on a juste un peu, c'est très humble, hein, on n'est pas tout ça, n'est pas très. Mais ça crée un trou dans le temps et un trou dans l'espace où ça existe. Voilà.
Tout à fait. Mais retenir le temps.
Mais est-ce que du coup ce spectacle aussi pourrait être une manière de soigner les gens qui ont un rapport peut-être un peu biaisé parfois à la maladie sous forme de clichés ou de préjugés ou de choses comme ça? Est-ce que c'est un moyen de les soigner en leur montrant justement avec cette distance parfois très ironique que procure le dispositif de la balade et le narrateur qui finalement dépouille l'histoire au fur et à mesure du spectacle. Est-ce que c'est une manière finalement de soigner les gens de leur propre aveuglement, leur ouvrir les yeux? Est-ce que vous avez cette ambition ou pas du tout?
Il y a toujours quelque chose, comme dire, c'est une ambition mais alors sous-jacente comme ça. Ce qui compte, c'est d'utiliser donc, comme je dis, un matériau de la réalité, hein, des diverses réalités. Mais peut-être il y a toujours, une ambition derrière. Je sais pas moi, quelque chose. C'est difficile. Par exemple, au moment de la guerre des Balkans, j'ai écrit un livre. Tout ça que j'avais envie, c'est-à-dire sur les gestes quotidiens qu'on commet tous les jours, donc ça fait une grosse partie de notre temps est consacrée à ces gestes. Donc, si on ne les reconnaît pas, c'est comme si on ne reconnaissait pas une partie de notre vie. Et c'était d'une certaine façon contre la mort, contre ce qui se passait là-bas au Balkan. Et ce livre a été traduit en serbo-croate. C'est la seule traduction qui était eue, c'était en serbo-croate. Une dame bosniaque l'a traduit. Donc c'est comme si il y avait cette ambition d'adresser. Mais bon, ça, la plupart du temps, ça ne marche pas. Mais là, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc ça veut dire, c'est juste traiter donc la réalité de façon à ce qu'elle soit comestible, quelque chose comme ça. Hein. J'essaie de comestible, comme une. Il y a chez les soufis un terme formidable que j'ai découvert il y a tout très très récemment. Ils appellent ça la fruition divine. Fruition divine, ça veut dire en fait la dégustation par les sens de la réalité divine. C'est formidable. Donc les soufis, normalement, ils n'ont pas besoin de clergé. Eux-mêmes, ils sont en relation avec. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est proposé chaque fois qu'on tente justement de bouleverser, enfin d'utiliser cette réalité qui parfois c'est difficile, c'est pas toujours évident, hein, donc il faut, mais il y a cette ambition là de la fruition divine, c'est pas pour faire cette proposition aux êtres humains, enfin à nos semblables, quoi. C'est une conversation de longue haleine, comme ça, on entreprend une conversation, on ne sait même pas exactement qui est l'interlocuteur, c'est l'inconnu, enfin, le groupe humain, on peut dire, hein, qui peut recevoir ça. Oui, c'est vraiment, finalement, c'est très ambitieux. Ça ne réussit pas à chaque fois, mais il y a quelque chose, il y a de ça, mais dans un premier temps, De quoi on parle? Mais du travail, de comment élaborer ça. C'est ça qui occupe le temps, mais peut-être, je ne sais pas pour toi, mais il y a quand même quelque chose qu'on oublie, c'est de parler aux autres, en fait. C'est recevoir cette parole, on peut dire comme ça, hein. On n'y pense pas tout le temps, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très ambitieux. C'est
et après, il y a forcément, Eugène a raison, ça sous-tend ça. Après, on n'est pas. On est dans une certaine économie, on est dans une certaine diffusion. Enfin, on est, mais c'est un endroit où ça a autant à voir avec notre propre désir de ne pas nous résigner. C'est-à-dire que le chemin qu'on est obligé de faire, nous, quand même, en tant qu'artistes. Il est semé d'embûches quand même, il est semé de... c'est âpre, il y a une âpreté de cet endroit-là. On ne choisit pas le... c'est pas un endroit facile. Enfin, je pense que je pourrais monter des tas d'autres choses qui seraient beaucoup plus faciles à faire que ça. Donc je crois que ce chemin-là, c'est déjà une manière de penser qu'on peut changer les choses puisqu'on continue à l'emprunter. C'est-à-dire que nous-mêmes, au quotidien, on continue à se dire que c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter, malgré tout, quand même. Parce que malgré, et les malgré, quand même, ne font que augmenter. Hein, mais ça veut dire quand même que on pense qu'il y a quelque chose qui doit pouvoir changer, aussi petit soit-il. Voilà. Parce que ça m'a très, comme dit Eugène, sur envie. C'est des tout petits mouvements, c'est des mouvements qui sont de l'ordre des ondes d'un caillou dans l'eau. C'est, voilà. Mais ils existent, en fait, ils existent, très clairement, ils existent. Moi, je pense que le travail qu'on mène depuis une dizaine d'années, c'est un travail qui est long, mais qui a une direction qui est précise, qui est celle-là. Donc forcément, elle est très singulière, mais elle est précise. Et donc, elle peut rallier petit à petit des gens qui cherchent cet endroit qui est singulier et précis, exactement comme l'œuvre d'Eugène. Forcément, ça n'a pas une efficacité... ce n'est pas efficace, justement, parce que ça ne se propose pas, ça. Ça propose de travailler sur des endroits, justement, qui sont des endroits... Le projet, nous, de la compagnie, c'était quand même ça, au départ, c'est de dire on veut travailler sur des endroits... sans voix, sans espace, sans des endroits qu'on n'entend pas, en fait, de dire ben, moi, si ça sert à quelque chose que je fasse ça, c'est pour créer justement ces espaces où on entend des choses qu'on n'entend pas. Donc mon boulot, je dirais, c'est d'écouter, de me dire là, j'ai l'impression que ça, on n'entend pas, quoi. J'avais travaillé avant sur les agriculteurs parce que j'avais l'impression qu'on les entendait, mais on les entendait juste quand ils n'étaient pas contents, qu'on n'entendait pas qu'est-ce qui constituait en fait leur travail au quotidien, quels étaient... Voilà, par exemple, j'avais travaillé sur l'avortement, qui me semblait être une thématique pareille, qui me semblait pas être très très audible, voilà. Et donc forcément, c'est minoritaire, hein, forcément, mais je ne sers pas à grand-chose d'autre qu'à travailler sur faire entendre la minorité. Donc ça change les choses, mais doucement.
Bon, bien, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc je rappelle que Sister, pas de veste, bon pluriel, se joue aux subsistances donc, jusqu'à dimanche
17h.
17h.
La date, 28.
28, 28 novembre.
29
novembre. Oui. Et donc j'invite tout à chacun à aller voir le travail d'Hélène Maton et de la langue écarlate. Un site internet très bien fait, hein, qui peut être consulté assez facilement.
Ouais, on est les seuls référencés sur ce nom-là. Donc,
donc eh bien, je vous remercie tous deux.
Merci.
C'était Raphaël pour Transistor.